Parler d'actions de type sensibilisation menées par l'April ou par d'autres structures. Annoncer des événements libristes à venir ou avec éventuellement des interviews des personnes qui organisent ces événements. C'est la chronique Le Libre fait sa com de ma collègue Isabella Vanier, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le thème du jour, organiser des ateliers d'émancipation numérique avec notre invité Mohican de l'association Libérons nos ordi. Je vous passe la parole.
Merci Fred. Mohican tient un blog Libertons nos ordi qui donne des conseils pratiques et propose des tutoriels pour aider les personnes à libérer leur informatique. Le blog s'adresse principalement aux débutants et débutantes de l'informatique libre, mais il y a aussi certains billets qui s'adressent à des personnes qui s'y connaissent déjà et qui sont à la recherche de ressources et conseils pour faire découvrir à leur tour les logiciels libres et leurs enjeux à leur entourage. C'est le cas d'un billet que Mohican a publié tout récemment et qui donne justement des conseils sur comment organiser des ateliers d'émancipation numérique. Le billet est plutôt long et articulé. On va essayer aujourd'hui de vous en présenter quelques points essentiels pour vous donner l'envie ensuite d'aller le lire en entier. Bonjour Mohican.
Bonjour à tout le monde.
Super, j'ai eu un petit blanc, j'ai eu peur, mais tout va bien. Merci d'être là avec nous. Je te propose de commencer avec un grand classique, une courte présentation personnelle. À toi la parole.
Voilà, donc Mohican, ça fait depuis 2005 que je tiens ce blog, Libertons nos ordi. Voilà, donc c'est d'abord le fruit de ma propre expérience d'avoir aidé autour de moi des gens à s'émanciper, donc à passer à Linux ou à d'autres logiciels libres. Voilà, et puis petit à petit, donc c'est à disposition de tout le monde pour soit faire soi-même des changements, soit aider d'autres à adopter ces solutions alternatives.
Merci pour cette présentation.
Donc ça, c'est pour le blog et en ce qui concerne l'association, donc elle s'est structurée essentiellement justement pour faire des ateliers d'une part ou pour aider d'autres structures à passer au logiciel libre.
Donc on disait que le billet que tu as récemment publié qui a attiré mon attention, donc organiser des ateliers d'émancipation numérique, une question assez simple, qu'est-ce que c'est ? Un atelier d'émancipation numérique, comment tu le définirais, à qui s'adresse, quels sont les objectifs?
Donc déjà, c'est des ateliers grand public. La grande différence avec un atelier informatique plus classique, c'est que là, non seulement on va manipuler, on va peut-être installer des applications, on va apprendre à s'en servir, mais il y a aussi une volonté donc, de sensibiliser aux logiciels libres et aux services éthiques. Voilà. Donc on fait les deux en même temps, c'est-à-dire à la fois quelque chose de pratique et d'utile, et en même temps on explique pourquoi on fait intervenir à ce niveau-là des logiciels libres, en quoi ils vont justement permettre de répondre à ces problématiques.
Est-ce que tu peux nous faire des exemples concrets d'ateliers d'émancipation numérique organisés par ton association ?
Alors déjà c'est assez différent si on fait un atelier ponctuel où il n'y aura pas de suite, donc juste une fois des gens qui viennent et qui repartent, ou alors si on fait une série d'ateliers où il va y avoir un suivi, donc c'est les mêmes personnes plus ou moins qui vont revenir soit de jour en jour ou de semaine en semaine. Voilà, donc si on fait un atelier ponctuel, là on va essayer quelque chose qui va être immédiatement utile, un bénéfice immédiat pour les gens qui viennent. Donc on va faire quelque chose d'assez simple. En général, ça va être soit sécuriser sa navigation web, changer de navigateur, prendre Firefox notamment, mettre un bloqueur de publicateur et changer de moteur de recherche. Donc là, déjà, les gens, ils verront plus de publicité dans leur navigation web et pour eux, ça va être un progrès immédiat, perceptible, palpable. Voilà, l'autre atelier ponctuel qu'on fait souvent, c'est installer Blockada, qui est un bloqueur de pub et de tracker pour les smartphones, donc qui va agir sur l'ensemble des applications du smartphone, aussi en évitant qu'elles diffusent de la publicité ou qu'elles vous trackent.
Et ça, c'est pour des ateliers ponctuels, tu disais, un bénéfice immédiat, donc il faut que les personnes puissent mettre en pratique tout de suite, qui retournent chez elles avec les changements effectués. Et un exemple, par exemple, d'ateliers pour lesquels il faut un peu plus de temps.
Alors, les séries, ça permet de balayer plus d'applications ou plus de logiciels. Voilà, donc on peut aller plus loin que ce que j'ai présenté là. On peut s'intéresser aux messageries instantanées, on peut s'intéresser aux applications de navigation géographique.
Le changement de boîte de messagerie aussi, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les personnes. Tu en parles dans ton blog, et là aussi, peut-être qu'il faut un peu plus de temps. D'après ton expérience,
voilà, oui. Un peu plus de temps, parce que d'abord, il faut faire un choix. Parce que le choix n'est pas forcément, c'est pas nous qui allons l'imposer. Donc, on va présenter plusieurs alternatives et les gens vont faire leur choix. Voilà. Et ensuite, il peut y avoir des choses un peu plus complexes, comme retransférer ces messages de son ancienne boîte vers la nouvelle pendant une période de transition, par exemple.
Et d'après ton expérience, quelles sont les conditions qui facilitent la réalisation des objectifs dont tu as parlé, c'est-à-dire à la fois une sensibilisation envers les logiciels libres et la satisfaction de besoins concrets? C'est quoi qui marche, qui fait si que tout ça arrive?
Donc, ce qui est important, c'est de répondre à un besoin du public. Donc, le besoin du public, il n'est pas totalement défini au départ, notamment parce que en général, les gens ne connaissent pas les alternatives, ils ne savent même pas forcément qu'il existe des alternatives libres, ils ne savent pas forcément ce que ça veut dire non plus. Mais ils peuvent avoir des besoins très immédiats, comme ne plus avoir de spam, ne plus avoir de virus, ne plus voir de publicité, ou ne plus être traqué. Ça peut aussi être un besoin qui s'exprime, parce que bon, de plus en plus dans les médias, on parle quand même du fait que les GAFAM exploitent vos données personnelles.
Et quelles sont, merci, et quelles sont par contre les erreurs à ne pas faire? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour éviter qu'il y ait un couac?
Ben, je dirais que ce qu'il faut peut-être éviter, c'est tout de suite de commencer par donner la définition de la licence libre, les quatre points de la définition.
Ce que l'April fait quand les gens viennent sur notre stand, mais ce n'est pas le cas des ateliers d'émancipation numérique, il faut bien faire la différence.
Voilà, c'est pas du tout le même public. Donc, il faut pas commencer par quelque chose qui est abstrait, difficile à appréhender et à comprendre, et où on voit pas trop. En fait, les gens vont comprendre l'intérêt du livre quand ils vont voir l'effet sur leur machine, le fait que ça change des choses pour eux.
D'accord. Donc, tu pars d'un besoin concret, voir les bénéfices et tout de suite expliquer que ces bénéfices sont possibles justement parce qu'il s'agit de solutions libres.
Et quelles libre sont... et éthique. Oui. Et j'insiste sur le fait éthique, parce qu'en fait, de plus en plus, on a recours à des services Internet, sur le mail, mais en fait, la plupart des applis, elles se basent sur des services Internet. Et donc, libre ne suffit pas. En fait, peut-être que ces applis utilisent des logiciels libres, mais ça ne suffit pas. Faut-il que le service soit rendu par un fournisseur qui est éthique et qui donc assure qu'il ne va pas exploiter les données des gens.
Et c'est le cas, par exemple, des organismes qui font partie du collectif Chatons, donc hébergeurs éthiques, qui s'engagent sur, qui ont signé une charte où s'engagent effectivement à ne pas exploiter les données personnelles. Quelles sont les réactions des personnes qui participent à ces ateliers? Tu as dit qu'il s'agit de personnes débutantes. Comment elles réagissent? Ils sont inquiets, ils se relaxent un moment pendant l'atelier, ils sont contents à la fin, ils t'écrivent, ils te recontactent.
Alors, donc, c'est des ateliers collectifs. Donc, c'est déjà ce qui est intéressant, c'est que tout le groupe va faire la même chose en même temps. Donc, ça permet aussi aux gens de s'entraider entre eux. Et bien sûr, les animateurs viennent voir où ils en sont, les aider. Donc, c'est le fait que ça soit une démarche collective, c'est important. Du coup, la personne, même si elle rentre chez elle après, elle sait qu'elle n'est pas la seule à avoir fait ce choix, à avoir installé ses applications. Ça, c'est le point important. Voilà. Et après, bien sûr, on laisse nos coordonnées. Et si parfois des gens nous recontactent pour aller plus loin, par exemple, ils demandent des conseils sur maintenant on a fait ça, donc on voudrait faire quelque chose de plus. Voilà.
C'est vrai que ce qu'on appelle l'accompagnement après-vente, entre guillemets, est important. Il ne faut pas que la personne se sente seule, d'autant plus que, comme tu l'expliques bien dans ton billet, ça me fait sourire à chaque fois. Un nouveau logiciel installé, c'est normalement le suspect numéro un s'il y a un souci sur sa machine.
Absolument, parce que c'est difficile pour les gens qui comprennent pas trop comment ça fonctionne de diagnostiquer une panne. Donc, la première panne qu'ils vont avoir après un atelier, ils vont la mettre sur le compte de ce qu'on vient de changer pour eux. En fait, même si ça n'a absolument rien à voir. Voilà, donc là, éventuellement, ça peut être un cas où ils vont me recontacter en disant, ben voilà, t'as changé ça sur, nous avons changé ça sur mon ordi ou sur mon smartphone, ça marche plus. Voilà, et là, je vais voir avec eux de quoi il s'agit, et souvent, en fait, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui a été fait en atelier.
Une autre chose dont tu parles dans ton billet, justement, c'est, à part le fait du suspect numéro un pour les logiciels, c'est aussi la résistance au changement, justement, les peurs, les inquiétudes par rapport à ce qui peut se passer. Et cela est aussi dû, en fait, au fait que les personnes ne connaissent, nous utilisons tous l'informatique, tous et toutes, mais en fait, on ne sait pas vraiment comment marchent les ordinateurs. Donc, on prétend que la machine fasse les opérations qu'on lui demande de faire, mais on ne s'intéresse pas à comment cela arrive. Donc il y a aussi un travail de démystification un petit peu de ce que c'est un ordinateur, qui à la base est complètement bête, hein. Ce sont des humains qui lui donnent les instructions, et tu en parles aussi dans ton billet. Est-ce que
la démystification, si j'ai la possibilité de faire une série d'ateliers, je vais consacrer une partie d'un atelier à ça, effectivement, au début, pour montrer déjà. Une chose qui est importante à montrer aux gens, c'est que leur smartphone est un ordinateur, donc de faire le parallèle entre les deux pour qu'ils considèrent vraiment cet appareil comme un ordinateur et pas juste comme un téléphone amélioré. C'est un des points importants. Après, en ce qui concerne la résistance au changement, oui, forcément, elle est là. Et donc, ce qu'il faut, c'est que les gens se sentent accompagnés. C'est-à-dire pas seulement le temps de l'atelier, mais qu'ils aient les moyens ensuite de demander de l'aide, que ce soit à nous ou à une association plus grande.
Très bien. En ces moments, c'est un peu plus compliqué d'organiser des ateliers. Hein. On est encore en plein pandémie, c'est pas fini. Mais on espère qu'on pourra en organiser plein bientôt, et que tes conseils puissent être utiles à d'autres organisations ou à d'autres personnes qui veulent organiser, par exemple, un atelier aussi dans son cercle d'amis, dans son entourage. Pourquoi pas? Il y a des bibliothèques, d'associations qui peuvent mettre à disposition des locaux. Ça peut être aussi chez soi. La question classique qu'on fait à la fin de nos chroniques, c'est le mot de la fin. Hein. Quel est le message que tu souhaiterais faire passer, l'idée clé par rapport aux ateliers d'émancipation numérique?
Bon, déjà, je voudrais te dire que sur notre blog, donc, on retrouve pas mal de ressources. Dans la page ressources, tous les diaporamas, les déroulés d'atelier, tout ça est réutilisable. Sous licence libre, donc vous pouvez tout à fait reprendre nos documents ou les adapter à votre cas particulier. Voilà. Et le conseil que je donnerais pour qu'un atelier soit fructueux, c'est vraiment que les gens repartent de l'atelier avec quelque chose qui leur a apporté un bénéfice immédiat et qui va durer dans le temps.
Voilà, une impression positive tout de suite. Merci beaucoup, Moïcan, pour ta participation à l'émission. Je vous invite vraiment à aller lire l'article en entier. Et c'était la chronique de Le Libre fait sa com. Je redonne la parole à Fred. Merci encore, Moïcan.
Merci à tous.